Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un conflit, une crise sociale qui dure depuis longtemps et qui ne semble pas devoir s'arrêter. La preuve, malgré un plan de réforme présenté comme un effort très important par le gouvernement en novembre dernier, les personnels hospitaliers sont de nouveau appelés à manifester demain. Ils veulent de nouvelles concessions, notamment salariales. Même si la contestation de la réforme des retraites occupe désormais le devant de la scène, le feu couve toujours dans les hôpitaux. Depuis deux semaines, plus de 800 praticiens ont quitté leurs fonctions administratives, tout en continuant à assurer les soins. La colère est toujours là, la crise des hôpitaux est-elle sans fin? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Christophe Prudhomme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste, porte-parole de l'AMUF, c'est l'Association des médecins urgentistes de France, et vous êtes délégué CGT. Et Nicolas Da Silva, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 13, spécialiste de l'économie de la santé. Christophe Prudhomme, pourquoi cette nouvelle journée de mobilisation?
Parce qu'aujourd'hui, l'hôpital est à l'os. De plan d'économie en plan d'économie, nous n'arrivons plus à assurer la sécurité des patients et les conditions de travail se sont dégradées. Voilà, donc pour résumer les choses, le mouvement est parti des urgences, hein, puisque les urgences sont le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements du système de santé. Quand il n'y a pas assez de médecins en ville, les gens viennent aux urgences. Et aux urgences, notre problématique, c'est d'avoir des lits pour hospitaliser les patients. Et on n'a pas assez de lits parce qu'on a fermé des lits. Et la ministre nous a proposé tardivement, parce qu'au départ, elle disait que c'était un problème d'organisation et non pas de moyens, 300 millions d'euros, on demande 4 milliards.
Voilà. 300 millions d'euros pour cette année de 2020.
Oui, c'est ça. Mais nous, on demande 4 milliards, et 4 milliards, c'est pas demander la lune, c'est demander une augmentation de 5% du budget, donc c'est simplement un rattrapage des différents plans d'économie qu'on a subis ces dernières années. Voilà, qu'on répartira entre l'embauche de personnel, des augmentations de salaire, et puis l'arrêt de la fermeture de lits et d'hôpitaux, comme ça se passe aujourd'hui.
Alors, on va parler peut-être un peu budget avec vous, Nicolas Da Silva. Le plan qui a été proposé en novembre, il est présenté comme très important par le gouvernement, avec une reprise de dette, des rallonges budgétaires, le tout pour un montant de plus de 10 milliards d'euros, mais sur 3 ans. On va peut-être essayer de faire le
tri. C'est pas 10 milliards d'euros, c'est
1,5 milliard d'euros sur 3 ans. Voilà. Oui. C'est un effort qui est important ou pas, Nicolas Da Silva?
Relativement aux enjeux, je suis obligé de dire que c'est un effort qui est assez ridicule. Parce que le budget de l'hôpital en France, c'est 95 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'on donne 500 millions d'euros par an. C'est 0,5% du budget total. Et non seulement c'est ridicule, mais d'une certaine manière, on est obligé de dire que c'est même méprisant. Parce que appeler ça un pacte de refondation des urgences, alors qu'on augmente les budgets de 0,5% face à l'ampleur de la crise de l'hôpital, enfin, je vois pas d'autre mot que le mépris. Mmh. Parce que chaque spécialiste du domaine reconnaît qu'il y a des problèmes très très importants et qu'il y a des exigences en termes d'augmentation des budgets qui sont présentes. Mmh. Et l'enjeu, c'est bien d'augmenter les budgets, de rediscuter de l'organisation probablement, mais avant tout d'augmenter les budgets qui n'augmentent pas suffisamment depuis au moins le début des années 2000.
Alors, je ne vais pas personnellement reprendre le terme de mépris que vous avez employé, Nicolas Da Silva, mais Christophe Prudhomme, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, n'a pas prévu de recevoir les représentants du mouvement avant le mois de mars, malgré les demandes qui durent depuis plusieurs mois. Elle explique que les premières mesures de son plan n'auront pas pu avoir d'effet avant. Comment est-ce que vous le prenez?
Écoutez, non, pour nous, c'est le mépris. Je reprends ce terme, le mépris. Et alors, elle ne reçoit pas, attendez, elle est médecin et elle va recevoir que les médecins. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes 13 organisations à appeler au mouvement. Il y a des syndicats, personnel, il y a des collectifs, il y a des médecins, il y a des associations de patients. Et elle va recevoir que les médecins. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un déni de démocratie. Vous voyez ? Elle ne nous écoute pas. C'est-à-dire que moi, je fais partie du premier syndicat représentatif, la CGT. Elle ne nous a pas reçus une seule fois depuis le début du mouvement qui a commencé au mois, en fin mars l'an dernier. Il y a quand même un problème. Et quand elle nous annonce des plans, elle refuse tout débat, elle ment honteusement, parce que quand elle propose 1,5 milliard, en fait, c'est pas 1,5 milliard, c'est 300 millions, mais les 300 millions qu'elle donne la première année, elle les déduit ensuite de ce qui reste d'année en année. Donc, en fait, c'est comme la reprise de la dette, reprendre un tiers de la dette. Aujourd'hui, les hôpitaux sont endettés à hauteur de 30 milliards d'euros. c'est une charge financière, c'est-à-dire que on abonde les bénéfices des banques commerciales.
C'était là mes 10 milliards d'euros du départ.
Oui, oui, mais voilà, voilà. Donc elle va reprendre voilà un tiers de la dette. Mais vous savez, j'ai un collègue qui a eu un bon mot. Quand j'ai un malade qui en face de moi qui a le cancer, est-ce que je lui dis que je vais lui guérir seulement un tiers de son cancer? Parce que là, avec un budget qui est sous-évalué, si elle nous reprend un tiers de la dette, de toute façon, on va régénérer de la dette dès cette année. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. On a besoin réellement, moi j'ai utilisé un terme médical, on a besoin d'un choc électrique, d'un choc puissant pour remettre un peu les compteurs à zéro au niveau des budgets.
Agnès Buzyn dit que son plan mettra plusieurs années pour atteindre son plein effet, notamment en termes de rééquilibrage, vous en parliez, entre médecine de ville et secteur hospitalier. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Da Silva? Est-ce que il faut pas justement un électrochoc, comme ça vient d'être expliqué?
Je pense évidemment qu'il faut un électrochoc, mais j'aimerais surtout expliquer d'où vient cette dette. On pourrait penser que cette dette vient de gabegie financière à l'intérieur des hôpitaux, qu'elle vient du fait que les hôpitaux sont mal gérés, qu'ils ont dépensé de façon éhontée. Or, en réalité, la dette hospitalière provient du fait que la sécurité sociale, à travers les plans de financement décidés par le gouvernement, refuse d'investir dans les hôpitaux. Or, tous les experts reconnaissent que l'hôpital, depuis au moins la fin des années 90, doit voir des budgets d'investissement pour renouveler les équipements augmenter sensiblement. Face à ce refus d'augmenter la cotisation sociale, ce qui a été choisi, ça a été un plan de financement par l'endettement. Et donc, c'est les gouvernements précédents qui, en refusant d'augmenter les cotisations sociales pour investir dans l'hôpital, ont généré une dette. Et cette fois-ci, on dit aux hôpitaux, bon, bah, cette dette que les gouvernements précédents ont été responsables d'augmenter, on va vous la payer. En fait, c'est la stratégie du pompier pyromane. Donc, on vient éteindre un feu qui a été allumé quelques années auparavant. Et ce qui est très important, c'est de bien comprendre la problématique de l'endettement. En France, historiquement, les hôpitaux n'ont pas été financés. Quand on a construit les hôpitaux, ils n'ont pas été financés par de la dette. Ils ont été financés par de la cotisation sociale. C'est-à-dire que progressivement, les cotisations sociales ont augmenté de façon à financer les hôpitaux sans dette, donc sans paiement des intérêts, donc sans passage par les marchés financiers lorsque c'est le cas aujourd'hui, sans passage par des...
Un investissement PPP. Public, quoi, voilà, tout simplement.
Oui, c'était la Caisse des dépôts et consignations qui finançait les collectivités, les hôpitaux. On avait des emprunts sur 40, 50, 60 ans, sans intérêt. Voilà. Parce que quand vous construisez un hôpital, c'est pas pour 10, 15 ans. Certains hôpitaux sont là depuis plusieurs siècles. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire que on crée effectivement une situation de déficit pour casser notre outil de travail. C'est comme ça qu'on le ressent, nous, les professionnels, dans l'hôpital. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est face à des directeurs qui nous expliquent que pour payer les remboursements d'emprunt, il va falloir faire des économies. Les économies à l'hôpital, comme 70% des dépenses, c'est le personnel, eh bien, c'est des suppressions de postes. Et quand on supprime des postes, on supprime des lits. Et donc, on n'a pas de place pour hospitaliser les patients. Juste là, ma dernière garde, aucune place en réanimation pédiatrique en Île-de-France. On a failli transférer en province un enfant de 6 ans qui avait besoin d'une place. Finalement, une place s'est libérée, mais il est resté de minuit jusqu'à 8 heures du matin dans un service d'urgence alors qu'il aurait dû être dans un service de réanimation. Ça s'appelle une perte de chance et ça crée de la surmortalité. Donc les conséquences des décisions politiques d'économie, pour nous, c'est une surmortalité chez les patients.
Alors,
ça, c'est grave.
On va en parler, mais on va peut-être poser encore une question, si ça vous dérange pas, sur le financement. En France, la part des dépenses de santé par rapport au PIB, c'est la deuxième la plus élevée de tous les pays de l'OCDE, derrière les États-Unis, loin derrière les États-Unis, il faut le préciser, ça doit être 11, c'était 11,2% je crois en 2018, 11,2% du PIB. Par rapport aux autres pays de l'OCDE, c'est un bon niveau de financement, a priori, quand on regarde les chiffres comme ça, Nicolas Da Silva, comment est-ce qu'on peut expliquer les difficultés de la crise actuelle? Et je vais poser la question très prosaïquement, si vous me le permettez. Où va l'argent?
Alors, il faut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la France n'est pas atypique, anormale en termes de dépenses de santé.
Oui, c'est la fourchette haute, mais finalement, c'est assez la moyenne. Voilà.
En fonction des types d'indicateurs qu'on choisit, la France peut se trouver au-dessus de l'Allemagne, en dessous de l'Allemagne en termes de dépenses de santé. Les cas atypiques, ce sont principalement parmi les pays comparables, les États-Unis, qui dépensent énormément parce que les dépenses de santé sont très liées au secteur marchand, elles sont privées, et l'autre pays qui est atypique, ce sont la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, où le secteur privé est beaucoup moins présent qu'aux États-Unis, mais comme le secteur public, il est dirigé par le NHS, l'État, il a beaucoup plus de facilité à réduire le niveau. Et donc, c'est ces deux pays qui sont exceptionnels. La France n'est pas exceptionnelle parmi les pays comparables. Et donc, où va l'argent ? Dans un système de santé qui, jusqu'à très récemment, était qualifié parmi les meilleurs du monde. Dans les en 2000, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, place le système de santé français parmi les meilleurs au monde. Et depuis, on refuse d'investir dans ce système. Les dépenses, évidemment, n'augmentent pas. Et la France perd son niveau dans les classements internationaux.
Christophe Prudhomme, mot sur la comparaison avec d'autres pays.
La comparaison, comparons-nous avec les États-Unis. Les États-Unis dépensent 50% de plus que nous.
C'est 17% du PIB américain en dépenses de santé.
50% de plus que nous. La différence, elle va où ? Dans le business. C'est-à-dire, c'est pour rémunérer les actionnaires des compagnies d'assurance et des cliniques. Donc, la question, c'est pas le niveau du PIB. C'est est-ce qu'on se donne les moyens d'assurer un niveau de santé à notre population qui prend en compte les évolutions techniques, notre richesse, une juste répartition des richesses. Nous sommes un des pays les plus riches du monde. Nous avons mis en place un système qui a permis effectivement, comme ça a été dit, que notre système de santé soit classé parmi les meilleurs du monde. Est-ce que aujourd'hui on va régresser ? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on nous explique, c'est la même chose que pour les retraites. Il va pas falloir dépenser plus que ce qu'on a dépensé hier. Mais quand aujourd'hui, il faut moins de machines, moins de personnel pour construire des machines à laver, on peut peut-être dépenser plus pour la santé, pour les loisirs. Vous savez, les gains de productivité aujourd'hui font que si les richesses étaient mieux réparties que c'est le cas aujourd'hui, tout le monde pourrait travailler que 25 heures. C'est ce que disent un certain nombre d'économistes, notamment Joseph Stiglitz. Donc il y a une question politique. Vous voyez, c'est pas nous on réclame de l'argent, mais est-ce que aujourd'hui le choix qui est fait par les politiques, c'est de mettre moins d'argent dans la santé et de faire que notre système s'écroule. Quand vous avez aujourd'hui, de la CGT jusqu'au professeur de médecine, électeur de Macron, qui défile ensemble dans la rue pour dire « on veut de l'argent tout de suite » et ensuite on discutera des mesures de réorganisation qui sont nécessaires, bien sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'en face, on ait un gouvernement qui refuse tout dialogue, il y a un vrai problème de démocratie.
Alors, est-ce que je pourrais simplement rebondir là-dessus ?
Allez-y, Nicolas,
vous avez dit quelque chose de très important. La question de la santé en France, c'est une question qui est politique. Et je pense que c'est vraiment par là où il faut commencer le débat.
Presque identitaire, d'ailleurs.
Je préfère les mots. Politique, je le maîtrise mieux. Oui. Mais pourquoi ? Parce que habituellement, les questions sur le système de santé sont prises à travers le prisme financier, technique. Combien on dépense par rapport aux autres. Alors pourquoi on peut dire que c'est un problème politique ? Parce que tout simplement, le système de sécurité sociale en France est un système qui financièrement était en excellente santé. Contrairement à ce qu'on peut dire, par exemple, sur la question de la dette, l'essentiel de l'endettement, ce n'est pas de l'endettement de la sécurité sociale en France, c'est l'endettement de l'État. Ce qui est très différent. Sur la question du déficit, le déficit de la sécurité sociale est très faible. Et il est tellement faible que, à très court terme, on va avoir des excédents de la sécurité sociale. Les projections, c'est que pour 2025, on va avoir des excédents de plusieurs milliards. Donc la sécurité sociale, c'est une institution financière qui est en très très bonne santé. Et la question est de savoir...
Été le cas. Il y a des efforts qui ont été faits pour combler le fameux trou de la sécu.
Depuis très très longtemps...
C'est un trou qui a été sciemment créé.
Justement, en fait, ce que montrent les sciences sociales, c'est que depuis au moins la création de l'institution en 1945, il y a toujours eu une tentative de construction artificielle d'un déficit. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un déficit ? C'est jouer sur les dépenses, mais aussi jouer sur les recettes. Et donc, ce que montrent, après de nombreux travaux, ils montrent ça, que c'est quelque chose qui est construit de façon artificielle. On n'est pas dans un pays qui est, un pays en voie de développement. On est un pays très, très riche. Et la sécurité sociale, on a tout à fait les moyens de se le payer. L'économiste n'a pas à dire s'il faut le faire ou pas, mais ce qu'il peut dire, c'est que ce n'est pas un problème financier, et d'autre part, la sécurité sociale publique, c'est non seulement plus efficace, ça coûte moins cher, mais c'est aussi plus égalitaire que les systèmes privés à but lucratif.
Alors on va passer aux réformes qui pourraient ou ne seraient pas nécessaires, Christophe Prudhomme. Est-ce qu'il faut un rééquilibrage entre médecine de ville et secteur hospitalier, ou est-ce qu'il faut tout simplement plus de moyens, plus de soignants et plus de lits dans le secteur hospitalier ?
Là, tout de suite, vu la crise, il faut plus de moyens. Mais après, il faut des réformes. Mais la question, c'est quelles réformes? Il suffit pas, comme le font nos politiques aujourd'hui, sauter comme un cabri en disant la réforme, la réforme, la réforme. Il y a des bonnes et des mauvaises réformes. Nous, ça fait des années qu'on propose une réforme assez simple, c'est-à-dire qu'on en finisse avec des financements multiples qui nous obligent à avoir une complémentaire, une surcomplémentaire. On veut une sécurité sociale qui collecte l'ensemble des cotisations et qui soit le payeur unique. Ça sera beaucoup plus simple, on fera des économies de gestion. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas opposer aujourd'hui l'hôpital et la médecine de ville. C'est les besoins dans les territoires. Eh bien, on a besoin de médecins. On a besoin de médecins dans les centres de santé, rattachés à des hôpitaux, qui travaillent ensemble, généralistes, spécialistes. Et puis, il faut former les bons médecins, en nombre suffisant, et les bons médecins. Aujourd'hui, on forme beaucoup trop de spécialistes, et pas assez de généralistes, pour former plus de médecins globalement. Mais, alors qu'on a une population qui vieillit, vous voyez, moi, concrètement, dans mon hôpital, l'essentiel des patients qu'on voit, et d'ailleurs, en ville, c'est la même chose, ce sont des gens de plus de 50 ans, pas forcément très âgés, plus de 50 ans, qui ont plusieurs maladies chroniques. Et la question, c'est pas de les guérir, c'est de les maintenir en meilleur état de santé possible le plus longtemps possible. Quand la personne a un diabète, un problème cardiaque, un problème respiratoire, le diabétologue, ça ne l'intéresse pas, le pneumologue, ça ne l'intéresse pas, le cardiologue, ça ne l'intéresse pas. Donc, il faut qu'on rénove l'hôpital et la médecine de ville, et ça, ça passe par le fait que faut en finir avec la liberté d'installation. Faut en finir avec le paiement à l'acte pour les médecins salariés.
Ça veut dire que les gens travaillent ensemble avec la liberté d'installation. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire, il y a une ressource de médecins par région,
c'est ça? Oui. Et bien, il y a 9000 médecins qui sortent par an. Mm-hmm. Il y a 9000 postes de médecins qui sont ouverts. On n'oblige pas les gens à aller là où ils veulent pas aller, mais ils vont aller proposer leur service là où ça les intéresse. Voilà. Mais par contre, ils vont pas tous s'installer là où ils veulent et ils n'ont plus le choix d'avoir des dépassements d'honoraires quand ils veulent où ils veulent.
Nicolas Da Silva.
Il est tout à fait évident qu'il faut organiser l'articulation entre hôpital et ville et qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent aussi en ville. Mais plutôt que d'aller sur ce terrain, j'aimerais, puisque demain il y a une grande journée de mobilisation autour de la crise de l'hôpital public, insister sur quelque chose qui n'est pas assez dit. C'est le fait que pendant qu'il y a une crise de l'hôpital public, on a en France un secteur hospitalier privé à but lucratif qui s'organise, qui se concentre avec des grands groupes. Et l'enjeu est le suivant. L'enjeu est de savoir dans quelle direction nous souhaitons aller. Est-ce que nous souhaitons aller vers un hôpital public qui a montré son efficacité, même s'il doit être réformé, notamment dans le sens d'une démocratisation, d'une plus grande participation de chacun dans les décisions?
Et qui a montré de l'avance en termes de recherche pendant des années et des années.
Bien sûr. Mmh. Ou est-ce qu'on veut aller vers un système dont on parlait tout à l'heure, à l'américaine par exemple, où ce sont des cliniques privées qui vont sélectionner les patients rentables, qui vont sélectionner entre ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas payer, avec une médecine qui sera encore plus à deux vitesses, parce qu'il ne faut pas se fourvoyer, nous avons déjà une médecine à deux vitesses. Est-ce que ce que l'on veut, ce sont des territoires qui sont très, très désorganisés, avec des zones désertifiées parce que les gens ne peuvent pas payer, et de notre côté avec des grandes métropoles où tous les investissements publics et privés sont concentrés? C'est cette tension sur laquelle il faut réfléchir.
Oui, Christophe Prudhomme. Il n'y a que le service public dans le cadre de l'aménagement du territoire qui peut répondre aux besoins. Et les Gilets jaunes l'ont bien montré. Quand on ferme la gare, quand on ferme l'hôpital, et le privé lucratif aujourd'hui qui s'installe en France, il se concentre aussi dans les métropoles. Je voudrais donner que le deuxième groupe de cliniques en France, qui est le groupe Elsan, son actionnaire principal, c'est un fonds d'investissement qui défiscalise au Luxembourg. C'est-à-dire qu'avec les bénéfices faits en France sur l'argent de la sécurité sociale, sur l'argent des dépassements d'honoraires, ils défiscalisent au Luxembourg, donc c'est moins d'argent pour financer le service public. Donc c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui.
Il nous reste un peu plus de 30 secondes, ou à peine. Vous espérez une mobilisation de quelle ampleur demain, Christophe Prudhomme?
C'est une mobilisation multiforme. Vous savez, à l'hôpital, on n'arrête pas les trains, on coupe pas l'électricité. Donc ça va être 1 heure, 2 heures de mobilisation dans chacun des hôpitaux, une manifestation à Paris. Et on va continuer. Et puis vous savez, là, j'ai rencontré des syndicalistes européens. Les mêmes politiques créent les mêmes problèmes dans tous les pays européens. Et ce qui nous a donné l'espoir, c'est que nos camarades belges ont gagné sur exactement les mêmes revendications il y a quelques semaines. Donc on peut gagner aussi en France s'il y a une mobilisation forte avec l'aide de la population.
Merci Christophe Prudhomme, merci à vous Nicolas Da Silva d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio à la rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est lundi, même heure, même endroit. Demain, vous avez rendez-vous avec Romain Ozoui pour Les Dessous de l'Infox. Bonjour chez vous. Monde Bleu.